On accueille maintenant Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous Elisabeth ?
Eh bien écoutez, je vais très bien parce que d'abord je voulais vous féliciter pour l'équipe de standardistes opérateurs que vous aviez parce que sans eux, il n'y aurait pas d'émission 3921.
Complètement, complètement. Et merci beaucoup.
Et que c'est très important, ce sont des sentinelles, des premiers de ligne et ça se perd, mais...
C'est très,
très important.
Important. Très important. Ce que
très
vous dites.
Important. Et d'autre part, j'ai découvert votre émission cet été parce qu'à la télévision, il n'y avait que des rediffs qu'on avait vus 10 fois depuis des décennies. Et Sabine Marin, d'après ce que j'ai compris, vous a remplacé pendant vos vacances.
Oui.
Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert votre émission. Et c'était bien qu'on n'ait pas des rediffs de toute l'année aussi pendant l'été, parce que c'est aussi important que les personnes puissent
continuer de parler,
continuer de parler ouais. Et d'avoir des histoires nouvelles.
Complètement, complètement.
Donc, on remercie Europe 1 de continuer, de ne pas faire des rediffs et que ce soit nouveau à chaque fois.
Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth.
Tout ceci pour vous dire que j'avais écouté justement pendant cet été une certaine Dominique le 10 août 2020 qui ne se remettait pas de l'enterrement de sa maman qui avait pourtant perdu à 94 ans. Mmh. Et justement, à propos de ces enterrements, eh ben, y a beaucoup déjà d'histoires qui commencent déjà à l'enterrement. Et entre nous, pour vous dire simplement, nous sommes 5 filles, donc maintenant nous sommes âgées, l'aînée à 76 ans, 75, 72, 70, et moi je suis la petite, 64.
D'accord.
Nous sommes d'un père et d'une mère, le même père, la même mère, donc rien de plus normal. Et au décès de mon père, déjà en 1986, la succession a duré 13 ans.
Et pourquoi cela ?
Parce qu'on ne s'entendait pas sur la façon de distribuer les biens qu'on n'avait pas à distribuer normalement puisque ma mère avait donation au dernier vivant, sauf que ma mère était malade psychiatriquement et que personne ne voulait reconnaître cette maladie sauf moi, la dernière.
Mmh.
Donc, l'aîné nous a assigné, donc elle a assigné sa mère et ses 4 sœurs. Donc, il y en a eu à l'époque pour 50 000 francs. Après, ça a continué, il a fallu vendre des biens en catastrophe. Donc là, on pensait que la signature de l'aîné avait plus d'importance que la signature de la dernière. Enfin, tout ça pour dire qu'il y avait quand même un camping aussi, donc il y avait des choses importantes. La seconde a mis un gérant sur ce camping sans prendre aucune précaution, même pas de relever à l'époque le compteur d'eau, le compteur du téléphone. Enfin, on se retrouvait avec des factures pas possibles. À ce moment-là, on pensait qu'elle était insolvable, mais... Donc on a cherché un huissier pour qu'il trouve où elle était partie parce qu'elle est partie sans payer. Et en fin de compte, il n'a jamais trouvé. Nous, on a juste avec l'adresse, on a été chez la pharmacie du village pour demander où était Madame Untel. Le pharmacien à l'époque, c'était dans les années 89, j'avais vu le film « La dernière adresse ». Où c'était par la pharmacie qui retrouvait la personne. Donc j'avais eu l'idée d'aller là, justement à la pharmacie. Elle n'était pas là, mais elle avait une maison un peu plus loin. Donc après, par le notaire, on avait su qu'elle était solvable. Mais on n'est jamais arrivé à obtenir l'argent qu'elle nous devait. Toujours est-il qu'à un moment donné, à force, il ne restait plus grand-chose. Et donc, le peu qui restait, ma mère n'était pas en mesure de se débrouiller toute seule. Donc l'aînée, la deuxième, par exemple, pour l'aider, a dit, bah, écoute, dans l'appartement, comme il y a tous les meubles, je les prends, je les emmène chez moi. Donc, le week-end avant de l'ascension, on avait été faire l'inventaire, les trois dernières de l'inventaire, donc jeter tout ce qu'il peut se jeter dans une maison dans laquelle vous avez vécu 30 ans. Et le lundi, il y avait un déménageur qui emmenait que ce qui était déménageable et elle avait fait payer la facture à ma mère, par exemple. Donc après, l'appartement a été vendu. Et donc la deuxième devait prendre ma mère chez elle. Après, on devait se la partager entre toutes les cinq, mais ça, c'était pas possible parce qu'une personne âgée, c'est difficile de, quand vous travaillez, de pouvoir la garder. Enfin bon, la deuxième a dit je te prends, sauf que comme elle pouvait pas non plus la garder, elle l'a mis dans un studio. Et on devait partager les frais de ce studio, sans nous demander l'autorisation. Voilà. Donc, à un moment donné, tout ça, j'ai compris que non seulement j'aurais rien de la succession de mes parents, mais j'aurais encore moins. Mes biens à moi étaient. Je risquais de perdre aussi mes biens que j'avais à mon mari. Depuis maintenant 43
oui,
ans.
Oui, si vous acceptiez la succession, il pouvait y avoir des dettes dans cette succession, en fait.
Voilà, mais moi, j'avais demandé sous bénéfice d'inventaire, mais ça n'a jamais pu être fait. Donc, à un moment donné, j'ai dit, il faut que ma mère soit mise sous tutelle. Donc, ce que je voulais dire ce soir pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que déjà, mettre quelqu'un sous tutelle, c'est très problématique.
Pourquoi cela ?
Enfin,
dites-moi.
Eh bien, il a fallu que toute la journée, donc après, elle était partie en région, en Bretagne, et toute la journée, j'ai appelé le tribunal pour qu'il y ait un médecin expert qui vienne l'expertiser, parce que l'aînée refusait qu'elle soit expertisée par un médecin. Et donc là, j'ai appelé toute la journée. Au bout de à 16 heures, il y a quand même la standardiste qui m'a passé... le service concerné, j'ai pu enfin expliquer et donc il y a un médecin expert qui est venu expertiser que ma mère avait effectivement besoin de tutelle. Sauf que c'était l'aînée qui voulait la tutelle alors que nous ne voulions pas. Et donc on s'est retrouvés à aller au tribunal de Vannes, toutes les cinq avec chacune son avocat. Là, il y en a deux qui n'ont pas pu venir, donc on était trois, et avec notre mère. Mais c'était d'une violence, c'est vraiment pas... Enfin, pour que la présidente du tribunal comprenne à quel point il fallait surtout pas que c'est l'aîné qui ait la tutelle, on devait l'appeler par son nom. Donc, on ne l'appelait pas par son prénom, comme on peut appeler une sœur, pour vous dire la violence que c'était.
Voilà, ce n'est pas l'entente parfaite entre les sœurs, là.
Ah non, pas du tout. Non, non. Mais comme il fallait l'obtenir, que ce ne soit pas elle qui est la tutelle, il fallait aussi qu'on fasse comprendre à la juge les soucis. Donc, voilà. Et donc, ce jour-là, elle a emmené ma mère, qui prenait de l'aldol, donc c'est un neuroleptique majeur, et donc ça vous change tout, donc elle paraissait tout à fait normale, sauf que l'aldol, quand vous avez plus votre dose, c'est une chute brutale, c'est pas libération prolongée comme certains médicaments, donc ça voulait dire qu'elle pouvait pas rester toute seule. Enfin, on est arrivé à ce qu'elle n'ait pas la tutelle, et du coup, comme elle n'a pas la tutelle, elle est repartie. Elle n'a plus voulu l'aînée de sa mère et donc elle l'a emmenée elle l'a envoyée chez la seconde. Parce qu'en plus, géographiquement, on est cinq filles, mais dispersées dans les cinq coins de France et au centre.
D'accord. Voilà.
Donc il y a Strasbourg, Nantes, Paris, Montpellier et Marseille. Voilà, c'est les hasards de la vie qui ont fait ça, mais bon, ça aide pas non plus. Et donc tout ça pour vous dire que ma mère a été mise sous tutelle. Bon, on a obtenu une tutelle extérieure, mais la tutelle n'a rien fait pendant les 18 mois qu'elle a été sous tutelle. Elle s'est occupée que, bon, ma mère pouvait plus faire de chèques, pouvait plus, mais elle n'a pas réglé le problème des meubles qui étaient tous chez la seconde. Et donc, ma mère est décédée en juin 2000. Et depuis, la succession n'est toujours pas réglée. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la tutelle s'arrête le jour du décès. Donc, le jour de l'enterrement, vous n'avez plus personne pour vous aider. Et là, ce que je voulais dire à tous les auditeurs, c'est que quand on est sous tutelle, on ne peut pas organiser ses funérailles. C'est à la page 707 du Code des communes. Et donc, l'aîné avait fait un testament à ma mère disant que, elle voulait être incinérée et que ses cendres soient distribuées à Venise parce qu'elle était d'origine de Venise. Donc, je me suis retrouvée. Alors, le décès, on l'a appris, c'est la troisième qui a appelé la quatrième a appelé la cinquième. C'est moi comme ça que j'ai appris que ma mère a été décédée par la deuxième qui avait appelé la troisième. Donc, vous voyez ce que ça voulait dire.
Oui.
Et j'ai appelé le pompe funèbre parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que ma mère veuille être incinérée? Jamais elle avait parlé qu'elle soit incinérée. Eh bien, il me dit, mais il y a un testament comme quoi elle veut être incinérée. Je dis, mais c'est pas possible que ma mère ait pu faire un testament, elle est sous tutelle. Donc lui, il a connaît la règle de la page 707 du Code des
D'accord.
communes.
Et donc, du coup, il était là, ce testament, ou c'était...
Il était là, il était présent, il était holographe.
Et qui lui avait fait faire ce testament? Vous pensez que c'était
L'aîné.
l'aîné, toujours. D'accord.
L'aîné, voilà. Et donc, je lui dis, mais c'est pas possible que ce testament soit valable. Ah, ben, il m'a répondu, moi, je peux pas, je suis pas là pour ne pas le faire exécuter. Alors, j'ai appelé mon assurance, qui n'était pas au courant non plus de la page 707 du Code des communes. Et du coup, j'ai dit, mais s'il y a une urne, qui est-ce qui va avoir l'urne? Ah, ben, ce sera la personne qui a donné le testament.
Donc, votre
Et
sœur
si,
aînée.
voilà, et si vous en voulez une, c'est 500 francs. Eh bien, j'ai dit, moi, je vais pas, donc, je n'ai pas ni demandé l'urne, ni je suis allée à l'enterrement, à l'incinération. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens qui pendant cette Covid, se sont trouvés avec des défunts qu'il fallait enterrer en 10 minutes, qu'ils n'avaient pas le temps de faire une cérémonie, qui était sans fleurs et tout ça. Il y a aucun contrôle de tout ça. Il y a dans les pompes funèbres, il y a aucun contrôle de rien. Et même là, que c'était pas en urgence, eh ben normalement, par la page 707 du Code des communes, s'il y a un problème parce que la personne ne peut pas organiser ses funérailles, on doit passer au tribunal en comparution immédiate et c'est le juge qui décide de ce qu'on doit faire.
Mais
Donc il y avait.
c'est vrai que c'est important, hein. Alors, bien évidemment, c'est un peu technique, hein, ce dont vous nous parlez, mais on comprend très bien parce que c'est très clair. Il est certain que vous évoquez une problématique qui, lorsqu'on a une famille qui ne s'entend pas comme ça et où tout à coup quelqu'un essaie de prendre la main comme votre sœur aînée l'a fait, difficile, hein, on le voit finalement, difficile de contrer, hein, cette autorité auto-déclarée. Et c'est ce qui s'est passé avec votre maman et ensuite avec cette sœur aînée qui est allée finalement, qui a obtenu ce qu'elle voulait. On va marquer une pause et puis on va continuer d'en discuter si vous voulez bien, Elisabeth. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord?
Oui.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est minuit 49 sur Europe 1. Nous nous quittons dans 10 minutes, chers amis. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous retrouverez demain soir à partir de 22h30 la charmante Sabine Marin, et ce, durant tout le week-end. 22h30, donc votre libre antenne demain avec Sabine. Pour le moment, nous sommes avec Elisabeth qui évoque eh bien, cette prise de pouvoir de votre sœur aînée, Elisabeth, hein, puisque finalement... Votre mère a été incinérée et vous n'avez rien pu faire.
Et je n'ai rien pu faire parce que devant une telle situation, tu es sidérée. Tu ne sais même pas que ça existe, donc tu ne peux même pas avoir anticipé cette situation. Et tu es sidérée parce que tu ne trouves personne qui peut t'aider. Et comme il y a un temps, on ne va pas non plus garder le corps pendant une semaine, elles ont... Même les deux aînés n'ont pas accepté que la quatrième, quand elle y a été, parce qu'elle était proche, elle était revenue sur Montpellier, donc de Marseille à Montpellier, elle a pu y aller. Elles n'ont pas accepté qu'elle reste seule avec notre mère. Et donc, il a fallu qu'une fois que le funérarium était fermé, qu'elle donne une pièce à l'agent d'amphithéâtre pour qu'elle puisse la voir sans que les deux aînés... Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu te retrouves, t'es vidé de tout et tu te retrouves avec plus aucun moyen. Et donc, la personne que j'avais entendue cet été, Dominique, qui disait que quand elle a été mettre sa mère avec l'agent d'amphithéâtre dans le cercueil qui ne correspondait pas au cercueil qu'elle avait acheté ensemble du vivant de sa mère, qui était en chaîne massif et que les prestations ne correspondaient pas, tu n'as aucun moyen à ce moment-là de t'en sortir. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Et tu te retrouves dans l'urgence. Et sa sœur lui disait, elle disait à sa sœur, mais tu te rappelles, maman, elle avait donné tant de... Elle avait fait ça, il y avait ces prestations-là et là. Et sa sœur, il dit, mais non, laisse tomber, mais... On ne peut pas comprendre à ce moment-là s'il y a des choses qui sont importantes pour une, qui l'est peut-être par l'autre. Bah, et oui, déjà, et puis, les problèmes se règlent déjà à l'enterrement. Déjà, tu as des problèmes.
Enfin, j'ai l'impression quand même, Elisabeth, que pour vous, vous avez raison d'évoquer les problèmes qui commencent dans certaines familles dès l'enterrement. D'ailleurs, nous avons un SMS qui n'est pas signé, mais qui... évoque hein, ces problématiques de famille, de pseudo-héritage de ces anciens qui ont l'impression finalement de n'être plus rien à la fin qu'un héritage finalement. Et pour vous, la discorde, elle était bien avant cet enterrement, j'ai l'impression. Elle n'a fait que s'amplifier.
Mais bien sûr, mais elle a continué à l'enterrement.
Oui, il y a un phénomène d'amplification à l'enterrement.
Parce qu'on a une concession à Marseille où il aurait suffi de faire une réduction de corps parce qu'on savait qu'il n'y avait plus de place depuis l'enterrement de mon père. Donc ça, je l'avais dit, j'avais dit, il faut se préparer, il faut faire une réduction de corps. Ça n'a pas été fait. Et donc, j'avais ma mère...
Ça existe, ça, des réductions de corps? C'est la première fois que j'entends ça, dites donc.
Mais oui, parce que quand vous avez des concessions à vie, maintenant, ça ne se fait plus. Mais si vous avez 4 places, vous ne pouvez pas en mettre 6.
D'accord, donc on en coupe la moitié d'un ou deux, comme ça, pour faire de la place aux autres.
Ah non, non, on l'a fait là pour belle-maman récemment.
Oui.
On réduit tout ce qui est à l'intérieur, c'est réduit. Donc oui. Ça ne redevient qu'une boîte. Voilà. Et après, ça laisse la place aux autres.
D'accord,
et tout ça, ça s'anticipe parce que les gens de les pompes funèbres, ils ne viennent pas parce que vous les appelez. Ils ne viennent pas tel jour. Oui, donc, tout ça, ça s'anticipe. Et il faut que... Voilà. Donc, donc là, elles ont décidé que c'était comme ça, qu'il ne fallait surtout pas que ma mère soit à côté de mon père parce que l'aîné avait, comme dans d'autres pays, on appelle ça un crime d'honneur. Elle a été enceinte il y a 50 ans avant de se marier. Donc, elle en voulait à mort à mon père qui lui avait interdit de venir à la maison pendant un an et qui lui avait obligé d'épouser l'homme qu'il avait mis enceinte. Mais bon, c'était il travaillait quand même à l'usine nouvelle, donc au magazine de l'usine nouvelle, il était rédacteur en chef, c'était pas non plus le dernier.
Non, mais bon. Mais elle avait envie de l'épouser, cet homme, ou pas?
Elle est restée 20 ans avec lui, ils ont eu deux enfants, bon, mais voilà, d'autres enfants, mais c'était pas non plus... alors que ma mère disait, si tu l'aimes pas, tu l'épouses pas. Bon, mais tout ça, c'est... Bon, c'était il y a 50 ans. Mais bon, pour vous dire que déjà, à l'enterrement, il y a aussi des choses qui se règlent déjà à cet déjà dès le début à l'enterrement, et que c'est très difficile d'obtenir quelque chose dans l'urgence, comme ça, d'avoir des... Et là, ça fait 20 ans que la succession de notre mère n'est pas signée. Donc vous dites l'héritage, mais c'est pas toujours un héritage vénal, c'est pas que des biens.
Non, non.
Il y a des choses auxquelles
on tient voilà, sentimentalement parlant.
Voilà. Et ben, on vous prend tout, et en plus, elle voudrait vous prendre vos biens que vous avez construits avec votre mari et vos enfants. Donc, et tout ça, c'est impuni. Bon, j'entendais la précédente. On peut pas déshériter ses enfants, mais si ils dilapident tout de leur vivant, les parents, eh ben c'est comme déshériter les enfants.
Oui, quelque part, c'est vrai, vous avez raison. Oui.
C'est exactement la même chose. Mm-hmm. Bon, là maintenant, si vous parlez dans une autre émission de l'article 860 du Code civil, eh ben c'est inégalitaire envers les enfants. Donc c'est pareil que si vous les déshéritez. Donc la loi, elle se contourne.
Oui,
voilà, donc vous n'êtes pas... moi, notre maison, on se l'est rénovée.
Oui.
Ça nous a pris des vacances où on rénovait la maison au lieu de partir en vacances. Eh bien, j'estime que mes enfants ont droit à une part de cette maison.
Oui,
c'est
légitime. Oui, parce que vous essayez de bien faire les choses, Elisabeth, aussi. Je pense que vous en avez appris, hein, de cette discorde familiale.
Mais tu ne peux pas tout anticiper. C'est ça qui est... par exemple, là, je vois ma belle-mère, on découvre qu'elle a fait signer mon beau-père un mois avant sa mort... de cet article 860, eh ben tu te dis comment ça se fait que le notaire ait pu accepter qu'une personne signe sans qu'elle soit à la connaissance des conséquences.
Mais dites, voilà. Florian me dit qu'il y a quand même un camping dans la succession, donc ça a dû batailler pour le camping quand même.
Ah ben, il y avait un bail emphytéotique, et donc le propriétaire, il a repris le camping. Hein.
D'accord.
Si vous payez pas.
Et ouais.
Donc,
c'est dommage. Voilà. C'est dommage finalement ça,
Oui, c'est dommage, mais c'est surtout que il y a tout qui passe, voilà, et les gens sont impunis. C'est ça en plus que prendre un avocat. Mais on en a pris des avocats. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les avocats? À un moment donné, déjà financièrement, tu n'y arrives plus.
Mais je comprends.
Tu n'y arrives plus financièrement.
Bon, en tout cas, je pense que voilà, celles et ceux qui vous ont écouté ce soir seront plus vigilants, hein, lorsque surtout il y a déjà une discorde certaine, hein, dans la famille, et qu'il faut vraiment être très vigilant, hein, quand on sent que ça tiraille comme ça au sein de la famille, parce que évidemment dans cette période particulière et dangereuse, hein, pour nos familles, en tout cas les plus âgées d'entre nous, il faut faire attention quand un décès intervient comme ça, à ce que ça ne parte pas dans tous les sens, comme vous nous l'avez expliqué, ma chère Elisabeth. Hein.
Ben oui, mais surtout que les gens connaissent la loi française.
Oui, enfin, ils la connaissent pas tous, la loi française, et c'est tout de même bien que vous nous l'ayez rappelé à travers...
Et que les professionnels des enterrements, ils la rappellent surtout.
Oui, oui, complètement. Complètement,
et
parce que
ça
eux
commence
la connaissent.
Déjà par là, parce que ils sont, c'est des professionnels, ils ne sont pas censés ignorer la loi. Hein. Mmh,
complètement. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Elisabeth.
Merci,
merci
à
de
vous,
nous avoir appelés.
Et
puis, à très bientôt, j'espère. En
Citation.
Tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne
que
nuit.
Longue vie à cette émission.
Merci beaucoup, Elisabeth. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.